Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le programme, demandez le programme, c'est ainsi qu'au théâtre ou à l'opéra, on se fait héler pour acheter de quoi connaître plus avant le spectacle auquel on va assister. Programme donc que je vais vous donner ce matin, mais pour votre rendez-vous cinéma des vendredis de ce temps de confinement. Programme donc les aventures de Rabbi Jacob, de Gérard Houry pour la catégorie De quoi rire demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent pour notre catégorie À quoi ressemblera le monde d'après, point d'interrogation, et Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois pour la catégorie chef-d'œuvre spirituel. Trois films qui font du bien, qui vous font respirer à plein poumon, trois films pleins d'espoir sur la condition humaine, besoin bien loin, pardon, du catastrophisme ambiant. Le grand écran, c'est donc l'émission Vivante Église de ce matin, puisque c'est notre rendez-vous à l'occasion de ce temps de confinement. Rendez-vous cinéma. À défaut d'aller au cinéma, eh bien, on soutient le cinéma et on va au cinéma chez nous. Et nous sommes donc avec Louis-Marie Solaire, toujours producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi, et qui continue fidèle au poste à l'occasion de ce temps de confinement. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima, intervenant cinéma toujours pour les Côtes au Pays et Centre Jésuite dans le Sud-Ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs.
Louis-Marie, vous êtes content de continuer à faire votre émission, ce que ce n'était pas le cas en mars dernier?
Et non, ce n'était pas le cas.
Est-ce que vous avez l'impression c'était un peu compliqué. D'être un résistant qui vous s'échappe comme ça
de... Je ne sais pas si je suis un résistant, c'est compliqué quand même de parler... Enfin... de parler cinéma, de parler de l'actualité cinématographique sans qu'il y en ait, ça c'est compliqué. Après, parler du cinéma, on peut toujours, on a toujours des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. La télévision, malheureusement, je ne sais pas, hein, vous vous souvenez que c'est quand même Jean-Luc Godard qui a dit « Au cinéma, on lève les yeux pour regarder les films. Au cinéma, on lève les yeux, à la télévision, on les baisse. » Voilà, alors bon, c'est une maxime qu'on a coutume de sortir et de dire quand on veut dénigrer la télé, alors qu'on sait qu'à l'heure actuelle, ceux qui se font le plus d'argent, en fait, ce sont toutes ces plateformes de streaming qui permettent aux gens de se détendre. Il faut bien le dire, on en a besoin dans ces moments, mais qui donnent un coup sérieux au cinéma parce que les producteurs sont plutôt...
Ils ne touchent rien. Ils ne touchent rien aussi.
Les producteurs gagnent de l'argent.
Mais un delta très faible.
C'est... oui, mais non, ce n'est pas un delta très faible, mais justement, dans ces périodes, étant donné qu'elles sont très incertaines, quand les cinémas réouvrent, ce qui s'était passé entre les deux périodes de confinement, eh bien, les producteurs sont très frileux et il y a peu de grands films qui sortent. En fait, quand je parle de grands films, on parle de blockbusters. Vous savez, de ces films qui réunissent tous les publics et qui permettent au cinéma, de vivre.
Eh ben, ça tombe bien, merci pour la transition. C'est probablement le cas de notre premier, Les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, sorti en 1973. On s'est dit à l'occasion de ce temps de confinement qu'on allait donc commencer par des films qui nous font bien rigoler. Et c'est le cas, on va écouter un extrait qui est une bande-annonce. Alors c'est la bande-annonce version années 70, on coupera peut-être au milieu.
Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe.
Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif.
Parce qu'hier, je ne l'étais pas. Voilà. Je ne suis pas juif.
Vous, monsieur le rabbin?
Voilà pour un extrait de la bande-annonce. On aura reconnu la voix de Louis de Funès. C'est donc un grand succès dont on va parler, et pas seulement en France. À l'époque, il avait totalisé 7,3 millions d'entrées en France. Et si j'ai bien compris, ça a été aussi un succès outre-Atlantique. Alors, l'histoire, pour ceux qui par hasard n'auraient pas vu ce film culte, Victor Pivert, joué donc par Louis de Funès, est un homme d'affaires, on va dire, irascible et foncièrement xénophobe. Il se rend à Paris pour le mariage de sa fille. Il est victime d'un accident de la route Et puis là, il lui arrive de multiples péripéties. Entre autres, il se trouve, il rencontre un leader révolutionnaire nommé Slimane, qui est recherché par d'autres personnes qui en veulent à sa vie. Et Victor Piver se retrouve embarqué dans une aventure un peu folle jusqu'à devenir un rabbin new-yorkais qu'il n'est pas. Louis-Marie Soler, sur l'histoire, on va dire que c'est quand même c'est un film fort connu. Alors là, on peut peut-être dire beaucoup de choses sans trahir de secret.
Oh, bah, il fait partie de cette catégorie de films qui sont dans l'inconscient populaire, c'est même plus le conscient. C'est-à-dire que quand on parle de Rabbi Jacob, inévitablement, on va revenir aux scènes cultes, on va faire le catalogue des scènes cultes. Bon, on va pas refaire ça, mais ce qui est...
Allez-y, on va partir du principe que les gens l'ont pas vu. Donc, rappelez-nous quand même deux, trois histoires.
Mais évidemment, étant donné que Piver est, vous l'avez dit, irascible et profondément raciste, il y a le fameux moment où il va découvrir, quand il roule, évidemment en voiture, puisque c'est son chauffeur, que son chauffeur est juif. Salomon, vous êtes juif. Ah, Salomon est juif, ben je vous garde.
Je
vous garde quand même. Voilà, il y a toutes ces répliques fameuses qu'on répète plus ou moins bien. La preuve, c'est que je me suis un petit peu mélangé les crayons. Mais ce qui est important aussi, c'est finalement Gérard Houry, le réalisateur du film, ses réalisations ont toujours été décriées. Celles qui n'étaient pas des comédies, il faut dire qu'elles n'étaient pas très réussies. Donc il avait droit à une volée de bois vert. Et c'est quand Louis de Funès, qui était un de ses amis et qui avait tourné avec lui, qui lui avait dit, qui lui a assuré qu'il était un auteur comique et qu'il ne pourra s'exprimer vraiment, là je cite les paroles de Funès, s'exprimer vraiment que lorsqu'il aura admis cette vérité-là. Et à partir de ce moment-là, eh ben, Houry a fait des comédies, et il faut bien avouer que les comédies qu'il a faites ont cartonné, parce que La Grande Vadrouille reste un monument du cinéma français qui, à ce jour, est... Alors, il y a Intouchable qui l'a battu, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas autant de salles que maintenant, mais le film avait réalisé plus de 17 millions d'entrées, et Les Aventures de Rabbi Jacob, dans le classement des succès de Houry, vous l'avez dit, est quand même à la quatrième position, et c'est un formidable hymne à la tolérance quand même. À travers cet homme irascible et raciste, eh ben, on va essayer de construire l'entente entre toutes les religions et toutes les croyances, et puis finalement toutes les couleurs de peau. Parce que ce qui est amusant, c'est... Enfin, ce qui est très bien fait de la part de Houry, c'est comment mieux connaître une communauté qu'en étant obligé d'en faire partie. Alors, il n'aime pas les juifs et il est obligé de jouer aux
donc
juifs.
Donc pour ceux qui par hasard ne l'auraient pas vu, Victor Piver donc, découvre que son chauffeur est juif. Et on va dire, il y a deux histoires à l'intérieur de cela. C'est-à-dire qu'un rabbi new-yorkais qui s'appelle donc Rabbi Jacob doit venir en France pour la bar mitzvah de quelqu'un de sa communauté. Cette communauté, en l'occurrence, c'est la communauté juive de la rue des Rosiers, donc à Paris. Et Victor Piver, on va dire, se retrouve habillé en rabbin juif et accueilli comme cela doit l'être dans cette communauté et pris donc pour ce fameux rabbin. Alors il y a une autre scène culte, je n'ai pas pu la garder parce qu'il n'y avait pas forcément de dialogue, c'est quand Whitfield se retrouve à danser. Allez, Paul Dumas, racontez-nous un petit peu.
Oui, une danse acylique. Et alors là, tout le monde la connaît. Ça a été un travail énorme. Alors, ce qu'on peut admirer aussi dans ce film, c'est l'implication de l'acteur, du comédien, Louis de Funès, qui a payé de sa personne. La répétition de la danse a été un travail énorme. Il le fait de façon remarquable. Et puis, il y a d'autres scènes aussi où il n'a pas craint de se mettre dans le bain.
Le bain de chewing-gum.
Le bain de chewing-gum qu'il a répété plusieurs fois était pas très ragoûtant comme scène à tourner. Hein.
Et puis surtout fatigant.
Et puis très fatigant. Et c'est le dernier film qu'a tourné Louis de Funès avec Gérard Houry. Il est mort après.
On va écouter un extrait. Victor Piver est donc dans sa voiture avec son chauffeur. Là, il est au volant. Et Victor Piver est un homme pressé et irascible. Enfin, en plus d'être irascible, là, il se retrouve pris dans une file et ça l'agace.
Monsieur ne veut pas que je prenne le volant ?
La barre.
Monsieur, attention ! Mais qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file ?
Vous avez vu, c'est un Anglais.
Un Anglais. J'aime pas, moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais?
Ben oui.
Ah, moi, je les aime pas. Il y a un Salon.
Quoi?
Regardez, un Suisse et un Allemand.
Et alors?
Regardez, un Suisse et un Allemand. On n'est plus en France, ici. Bon, ben voilà, maintenant, on est derrière un Belge. Un Belge.
Pourquoi, les Belges d'en paix, vous les aimez pas?
Ils nous polluent, les Belges. T'as regardé son pont. Tu t'en prends belge, je suis une conca. Attendez, je vais le doubler, je vais le tripler. Et voilà. Alors là, regardez, Salomon, regardez.
Ben oui. Quoi?
Eh ben c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est un Français.
Monsieur?
Dis donc toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde?
Abruti, crétin, cocu, andouille. T'as entendu, hein? C'est ça les Français.
En troisième position. Faut pas gêner surtout, hein?
Hey, oh! C'est fini, oui?
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore?
Vous voyez bien, c'est un mariage.
Justement, moi aussi, je marie ma fille.
Voilà, Victor Pivert, impayable, et des scènes comme ça, il y en a 10 à la douzaine. Autre chose que j'ai lu sur ce film, messieurs les cinéphiles, c'est que Louis de Funès était, donc ça a été un grand succès pour lui aussi, hein, et c'est semble-t-il un film qui a marqué la carrière de ce comédien, Louis-Marie Soler.
Ben,
c'était dans un nouvel emploi quelque part.
Ça a marqué le comédien parce que justement, comme Paul l'a dit, c'est sa dernière collaboration avec Gérard Houry. Avec Gérard Houry, il avait fait La Grande Vadrouille. C'est Gérard Houry quand même qui a eu l'idée phénoménale, on peut dire la qualifier comme ça, de réunir Bourville et De Funès dans le même film. Ouais. La Grande Vadrouille, Le Corgneau d'abord, La Grande Vadrouille ensuite. C'est deux films extraordinaires qui ont rencontré un succès phénoménal. Alors pour en revenir aux aventures de Rabbi Jacob, et non, sa carrière était déjà à son apogée là. On est plutôt à la fin. Il allait encore tourner une petite dizaine de films, plus avec Houry, plus des films marquants. Il a fait quelques comédies, mais qui sont pas restées tellement dans les mémoires, avec Claude Zidi notamment, L'aile ou la cuisse. Et peu de temps après, il décédait parce qu'il était de santé fragile. Et après ce film, après Les Aventures de Rabbi Jacob, comme le disait Paul, un film qui a été fatigant pour le tournage, il n'a pas tourné pendant quelques années. Alors que si on regarde sa filmographie, c'est un homme qui tournait 2-3 films par an. Il a une filmographie pléthorique, alors des premiers rôles au second bien sûr, mais c'est un comédien qui tournait beaucoup.
Paul Dima, pourquoi est-ce que c'est un film culte et puis pourquoi c'est un très bon film? Voilà, il faut dire aussi que c'est une manière de parler des Français d'une certaine époque et de la communauté juive qui est pleine de talent.
Tout à fait pleine de talent, parce que là, Gérard Houry a le coup de génie de prendre acte de la culture de l'époque, des bouleversements qui se passent. On est dans les années 73. Et là, on a un petit bourgeois impossible à vivre, nerveux, qui déteste tout le monde, qui n'y en a que pour lui. Et dans le scénario, il a habité un personnage qu'il n'est pas et dont il déteste, par méconnaissance, la culture, la portée et tout. Enfin, bon, je ne suis pas juif, je répète, mais il est obligé de jouer un juif. Et en fait, la mimique, la mise en scène... Dans tous ces excès, fait qu'on découvre ce qui tient à cœur à Gérard Houry, c'est on ne reconnaît l'autre, on ne le comprend qu'en le rencontrant. Et là, l'acteur, en fait, le rencontre en plein, puisqu'il est obligé de jouer ce qu'il n'est pas. Et donc, la rencontre de l'autre.
Est-ce que les Français venaient rire un peu d'eux-mêmes aussi, quelque part?
Oui, on aime bien ça aussi. On aime bien se moquer, parce que au fond, il a un côté brave type en même temps, c'est un rouspéteur, un type impossible. Mais dans le film, il s'ouvre aussi, il a bon cœur. Enfin, les Français ressortent pavillon ou quand même de l'histoire de ce film.
Louis-Marie Soler, gros succès outre-Atlantique aussi, ai-je lu, hein, Golden Globe du meilleur film étranger, 1975.
Oui.
C'était pas le cas de tous les films de Louis de Funès, si cette fois je me trompe
pas. Non. Comme je le disais, Louis de Funès avait un succès populaire qui ne s'est pas démenti. Mmh. Par contre, la critique était sévère avec lui, avec ses films. Hein. Chaque fois qu'un film sortait avec de Funès, il était le plus souvent étrillé par la critique quand il ne l'ignorait pas complètement. Non, il a jamais fait les grands articles, l'objet de grands articles dans des magazines de cinéma. Et pourtant, en ce moment, il y a une exposition Louis de Funès, hein, je crois, à la Cinémathèque française. On arrive quand même maintenant à rendre hommage au talent de ce comédien qui avait dit quand même à l'époque, pour en revenir au film, Les Aventures de Rabbi Jacob, quelques mois après la sortie du film, que le film lui avait décrassé l'âme.
Oui.
C'est joli. Et on parlait du génie, du talent. C'est De Funès qui avait dit, je l'ai dit tout à l'heure, à Houry qu'il était un grand cinéaste comique. Et dans les films de Houry, ce qu'on retrouve toujours, c'est les bagnoles. Il a une utilisation, comment dire, des voitures ou des véhicules plus largement, et qui sont toujours véhicules de gag. Il y a
la déesse
avec le bateau. Pourquoi cette déesse a un bateau sur le toit? Pourquoi? Ben pour se retourner et tomber dans l'eau. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il fallait y penser. Et pourquoi ce taxi new-yorkais? Pourquoi y a-t-il un embouteillage pour aller à l'aéroport à New York? Pourquoi? Ben pour qu'on puisse, les juifs fascistes, pour qu'ils puissent soulever le taxi et le transporter
par-dessus les autres voitures.
Et c'est ça, dans ce film d'Houry, il y a tout, parce qu'il y a la comédie romantique, le récit d'aventure, le film d'espionnage, il y a
oui,
ça
oui.
Référence à l'affaire Ben Barka, ouverte, il y a le burlesque, la communauté communautaire. C'est finalement la magie du cinéma, parce que la magie, vous parliez de cette danse-là, cette fameuse danse. Dans la réalité, Pivert, il n'aurait jamais dansé. Il se serait fait gauler tout de suite.
Oui.
Là, ce coup-là, non. Mais dans le cinéma, eh ben non,
c'est possible.
C'est possible. Et c'est ça, la magie du cinéma.
Oui, tout à fait.
Et bien voilà, à voir et à revoir donc, Les Aventures de Rabbi Jacob, Gérard Houry, 1973. Mais ça n'a pas pris une ride d'une certaine manière. On vous retrouve dans quelques instants. On va parler de Demain, qui est donc un film documentaire qui est sorti en 2015, qui a été primé à Cannes. Louis-Marie, la musique, là?
Oh ben la musique, c'est la musique de Cosma, Vladimir, hein, on y est. We'll be right back.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, votre émission cinéma ou presque. En ce temps de confinement, chaque vendredi, on essaye de vous donner des idées de manière d'égayer vos soirées de week-end ou pendant la semaine. On a choisi donc comme deuxième catégorie pour cette série d'émissions spéciale confinement, donc des films qui parlent du monde d'après, point d'interrogation. Et on a décidé de reparler, parce qu'il me semble qu'on en avait déjà parlé, de ce documentaire intitulé « Demain » de Cyril Dion et l'actrice Mélanie Laurent. On va écouter tout de suite la bande-annonce.
A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité.
Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point.
Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement.
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes.
We didn't start with, shall we save the planet? Because that was too grand. We just start with where we are.
Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie.
En faisant tout à la main sur un tout petit territoire, tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand.
San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled or composted.
Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant.
Now we vote, we govern.
Voulu mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain.
In Totnes, we have a £21 note. Kind of.
21.
Because you can. Why not?
Voilà, Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Donc je l'ai dit, sorti en 2015. C'est donc un film sur un format un peu particulier, hein, film documentaire. Malgré tout, il y a une histoire d'une certaine manière. L'histoire, c'est donc ce fameux Cyril Dion. Alors ça vaut le coup de le représenter, c'est ce que je vais faire en 2 mots. Cyril Dion, c'est un des fondateurs, sauf erreur de ma part, du mouvement des Colibris, qui est donc un mouvement qui a été initié par Pierre Rabhi, donc grande figure de l'agroécologie française, figure, on va dire, historique. Et ce Cyril Dion, donc, est allé rencontrer l'actrice Mélanie Laurent pour la convaincre de faire ce film. Ce film, c'est quoi? C'est un tour du monde ou presque, hein. Ils sont partis à la rencontre de multiples petites initiatives qui dessinent le monde d'après, la crise écologique. Ça, c'est pour l'intrigue. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce film. Ça fonctionne par chapitrage, quelque part, par chapitre, pardon. On parle nourriture, on parle éducation, on parle argent. On essaie de voir un peu tous les points clés. Qu'est-ce que vous diriez, Paul Diman, en introduction?
Eh bien, dans une période un peu de sinistrose, le propos des réalisateurs, et on l'a entendu dans la bande-annonce, c'est de dire... un autre monde est possible, et non seulement il est possible, mais il est déjà à l'œuvre dans plein d'endroits. Alors des petites réalisations, mais qui sont vraiment révolutionnaires au sens que elles nous permettent de penser autrement que la doxa habituelle. Il y a un monde qui est en train de finir, qui est piloté par l'argent, par les flux financiers hors sol, par tout ça. Et si on continue avec cette seule logique-là, on va à notre perte. Alors plutôt que de se lamenter, ils sont allés voir dans 10 pays différents les réalisations dans les différents domaines que vous avez énumérés, en disant « mais c'est déjà à l'œuvre et c'est possible ». Alors prenez-en de la graine, allons-y.
Alors citez-nous quelques exemples peut-être qui vous ont frappé, alors, en dehors de l'abbaye du Bec-et-Loin, puisque après on va faire une balade dedans.
Ah oui, alors on va voir hors de l'abbaye. Bon, y en a plein d'autres. On voit des petits agriculteurs qui inventent des outils mécaniques ou tirés par des animaux qui se passent des tracteurs, donc du pétrole, et qui produisent infiniment plus et qui font revivre la terre, alors que l'agriculture ou l'élevage industriel détruisent et la terre et appauvrissent la qualité de ce qu'on mange. Il dit, mais ça, c'est possible, et en plus, ça marche. Les gens qui travaillent dans ces domaines-là et avec ces techniques-là, eh ben, ils vivent de leur travail et ils en vivent bien.
Alors c'est un film qu'on peut presque, on va dire, regarder avec un stylo à la main, hein, puisqu'il rappelle entre autres, et cette fois il donne la parole à un expert des Nations Unies pour reprendre ce point de la nourriture, que 75% de la production mondiale est le cas, production de nourriture, hein, est le fait de petites fermes en fait aux quatre coins du monde, contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire. On s'en prend aussi plein la figure, hein, cette étude-là qu'il cite au début, c'est une étude de juin 2012 de la revue Nature, et le film commence comme ça, ils sont allés voir les deux universitaires de l'université de Stanford qui disent que on assiste donc à une révolution actuelle qui est équivalente à l'époque à la destruction la destruction qui a connu l'époque des dinosaures. C'est dire la gravité de la situation. Louis-Marie Solaire, si on picore comme ça une ou deux choses, quand vous avez regardé le documentaire la première fois, vous avez dit tiens ça alors, j'aurais jamais cru.
Oui, c'est ce qui est... Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, mais c'est ça. Et puis, c'est le fait que le film donne des pistes formidables et il n'est pas donneur de leçons. C'est-à-dire que même le spectateur le plus rétif à l'écologie, bah, se laisse capter pendant tout le film, dès les cinq premières minutes, il va suivre. Et en fait...
Mais une ou deux, vous, qui vous ont marqué
C'est celles dont vous avez parlé, qui sont les plus primantes. Et puis aussi la création d'une monnaie. Il y a la création de cette monnaie-là.
Monnaie locale
en Suisse.
Ça m'a assez séduit, ça aussi, la monnaie, puis la façon d'éduquer les enfants aussi. Il y a quelque chose de frais et de neuf.
Des monnaies locales qui échappent à la dimension spéculative, c'est-à-dire que c'est de l'économie dite circulaire, c'est-à-dire que on crée sa propre monnaie et qui a le droit de le faire, eh ben faisons-le, c'est et là. Ça marche. Et c'est une monnaie de complément, c'est-à-dire elle peut pas être la seule, mais elle permet qu'il y ait tout un circuit sans derrière la rémunération d'actionnaires, l'enrichissement de banques centrales ou de banques de grande importance. Et donc, c'est de la monnaie qui produit de la production, du travail.
De la richesse locale. Voilà. En l'occurrence, c'est donc le mouvement de Bâle. C'est donc un réseau. C'est une banque, je crois que c'est le CIR, hein, c'est ça, en Suisse. C'est donc une monnaie qui a été créée donc, dans une partie de la Suisse, et c'est un certain nombre d'entreprises locales qui tournent avec cette monnaie. Et l'avantage, c'est ce qu'ils disent dans ce documentaire, c'est que du coup, cette monnaie, quelque part, ne sert qu'en circuit court, donc au développement local, et ça n'enrichit ni des banques, ni ça ne sert pas à la spéculation financière. On va écouter un extrait. C'est un extrait donc, qui parle d'une initiative qui existe en France. Cocorico, c'est donc près de l'abbaye du Bec-et-Loin, une initiative qui est aujourd'hui assez connue. C'est un couple qui s'est lancé il y a quelques années maintenant dans la permaculture et qui ont fait d'une petite exploitation un lieu absolument extraordinaire.
Alors on est parti à la recherche de ces petites fermes si productives dont nous parlait Olivier, pour voir par nous-mêmes si elles pouvaient réellement nourrir le monde. Nous avons atterri au Bec-et-Loin, tout près de chez nous, dans une ferme en permaculture qui affichait des rendements absolument extraordinaires.
Nous, notre rêve avec Perrine, c'était de travailler un grand jardin et avec le moins de pétrole possible, si possible, pas de pétrole du tout. Actuellement, pour une calorie alimentaire qui arrive dans notre assiette, il faut 10 à 12 calories d'énergie fossile. Ce qui est une pure aberration, parce que on sait que demain ou après-demain, le pétrole sera beaucoup plus rare. Et pourtant, je pense qu'on a tous envie de continuer à manger. Donc, il faut qu'on invente des manières de se nourrir sans pétrole. C'est très important. Donc, c'est pas du tout une lubie de néo-ruraux, de pratiquer une agriculture complètement manuelle. C'est une nécessité vitale pour nourrir l'humanité demain.
Et donc là, l'étude que vous avez faite, qu'est-ce que vous vouliez démontrer ?
L'étude qu'on mène avec Agroup Hi-Tech et l'INRA cherche à valider l'hypothèse que 1000 mètres carrés cultivés, c'est-à-dire c'est une petite surface quand même, permettent de créer une activité durable et décemment rémunérée. Et dès la première année, là on est en année 3, dès la première année, on a produit plus de 32 000 euros de légumes sur les 1000 mètres carrés, dans une mauvaise année en plus. L'année suivante, c'est monté à 39 000 euros. Là, c'est en train de monter encore beaucoup parce qu'on prend confiance dans cette démarche, donc on est un peu plus audacieux. Donc ce sont des chiffres d'affaires qui sont tout à fait similaires à ce que nos collègues font sur un hectare, parfois plus. Et donc ça montre qu'en faisant tout à la main sur un tout petit territoire, tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand, sensiblement. Et ça, je trouve, c'est porteur de beaucoup d'espoir parce que ça laisse entrevoir des micro-fermes beaucoup plus faciles à créer et à loger partout, en ville, en périphérie des villes. Et du coup, on peut imaginer une société avec une véritable sécurité alimentaire. C'est une forme d'agriculture qui est en plus profondément belle.
Voilà pour l'extrait à propos de l'abbaye du Bec-et-Loing. Ils ne prennent pas que cet exemple. Et ils commencent par la nourriture. J'ai trouvé ça évidemment frappant. Ils vont entre autres se balader à Détroit, cette ville industrielle américaine qui aujourd'hui est une espèce de zone de friche, en fait, sinistrée, oui. Où les plus pauvres ont repris en main leur destin et qui vise l'autonomie alimentaire pour 2030 ou 2040, plus de 1600 fermes dans la ville. Ça aussi, c'est un moment frappant. Pourquoi ça vous a plu, ce film? Pourquoi c'est un beau film? Il a été primé, hein, Louis-Marien.
Il a eu le César. Il a eu César du documentaire. Et c'est un film. Alors, en plus, la carrière de ce film est exemplaire. Parce que c'est un film sur lequel personne ne pariait un sou. Personne ne voulait monter cette histoire. Quand Cyril Dion, aidé par Mélanie Laurent, la notoriété de Mélanie Laurent, ont essayé de monter ce documentaire, ce petit documentaire, ils n'ont pas trouvé d'argent. Et ils ont fait, vous savez, le financement participatif, Kiss Kiss Bank Bank, pour ne pas les nommer, et ils ont réussi à récolter 450 000 euros en 2 mois. 450 000 euros en 2 mois pour réaliser un film, c'est une belle performance. C'est dire si l'envie des gens qui finançaient était importante de voir un film qui donnait des pistes comme celle-là. Et les pistes, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas donneur de leçons. Et puis on se dit, mais il y a un tel naturel, on se dit, mais comment on n'y a pas pensé avant? Enfin, C'est sidérant de simplicité, finalement. Et c'est ça qui fait la force de ce film, c'est qu'en plus, le film rassemble tout le monde. Je le disais, même quand on n'a rien d'écolo, quand on voit ce film, on se dit, ben oui, mince. Et les gens qui sortaient de ce film... Et pour dire, et vous l'avez dit, combien le film a eu du succès.
Paul Dima.
Je rajouterai au mot de simplicité utilisé par Louis-Marie, celui aussi de compétence. C'est pas des petits rigolos qui font du bricolage. C'est en même temps, il s'appuie ici à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agricole. Il s'associe à des économistes, mais ils expérimentent.
Ils ne vont pas voir n'importe qui. Hein,
non, aussi, non, non. Et puis la plupart des exemples qu'on voit, c'est des gens qui ont travaillé, réfléchi, mais mis en application. Ce n'est pas simplement des grosses têtes qui pensent dans leur bureau. C'est des gens qui appliquent concrètement et qui font la preuve qu'il est permis de penser autrement et qu'en plus... ça peut marcher. Donc, je trouve que la force de ce film, et c'est ce qui vient dans les débats à partir de ce film-là, et c'est intéressant de le regarder par séquence, c'est de dire, mais bon sang, jamais on a pensé comme ça. Et pourtant, eh ben, c'est possible, et allons-y, ça marche. C'est l'intérêt de la crise. Plutôt que de pleurer sur « c'est la fin du monde », le moment de crise est un moment de dire, mais... de quoi on a envie? On ne peut pas continuer comme on fait, il faut inventer autre chose.
C'est un film aussi assez engagé, hein, qui peut en énerver certains.
Oui.
Je repense par exemple à cet expert des Nations Unies, hein, qui met les pieds dans le plat à propos de la nourriture. Il dit en fait, les grands pays occidentaux achètent la paix sociale, parce que la nourriture aujourd'hui c'est entre 12 et 13% des budgets des ménages, et la réalité, si on veut manger, on va dire bio, local, propre, etc., bah, c'est 25-30% comme après-guerre. Donc on s'en prend aussi un peu plein la figure quand même.
Dans le système actuel, c'est-à-dire qu'avec une agriculture expansive et avec le pétrole, enfin tout ce qu'on disait tout à l'heure, de fait, on peut acheter à bas coût. Mais avec le nouveau paradigme qu'ils mettent en œuvre, ils font la preuve qu'on peut produire plus avec moins.
Demain, c'est donc un film à voir, c'est un beau film documentaire. On peut aussi dire qu'il avait été diffusé au moment de la COP21, preuve que c'est un film engagé. Ce road movie citoyen, comme on l'appelle aussi, de là à dire qu'il a eu de l'influence sur cette assemblée, je ne sais pas. Et il avait été publié il a été sorti dans un certain nombre de pays. On va faire une deuxième pause et on va vous retrouver, Louis-Marie. La musique ?
Eh bien, c'est la compositrice de la musique du film, Frédéric Achtal, j'espère que je n'écorche pas son nom, qu'on va écouter. Là, on va entendre aussi sa voix, puisque le générique de fin est à la fois musical et chanté. C'est aussi une chanson, tout simplement, qui s'intitule « Tomorrow, demain ».
It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel that we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel that we're facing a storm. The final show now. Face the final blow now. Start looking around. You will get it, all the omens, all the signs. Can't leave, you can't change. For the better, make some good things down the line. For tomorrow will be what we saw today. Tomorrow. Picture of horizon, a place where we can build a home. Fight it out, lose or win. Can't let go, won't give in. The whole world is on hold now. We'll do anything to survive. See the final show now.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel, pour ceux qui nous prendront en cours de route, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma. Cinéma à domicile, mais bien cinéma. Troisième film de cette semaine, à voir et à revoir, Des hommes et des dieux, donc de Xavier Beauvois. L'histoire, comme d'habitude, on va commencer par la bande-annonce.
Ses parents, le sable et l'eau, la terre. L'Aster doit avoir une protection militaire.
Je pense que ça n'est pas souhaitable, non.
Et comment pouvez-vous dire ça?
Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment?
C'est un risque, oui.
Peut-être faut-il partir.
Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère.
Si vous partez, on ne saura pas où se poser.
Les consignes deviennent très sérieuses.
Vous savez bien que personne d'autre que nous peut nous décider à quitter ce pays.
Rappelle-toi l'amour. Espèce. Tout. L'amour endure tout.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Voilà, Des hommes et des dieux, donc de Xavier Beauvois. L'année de sortie, quelle est-elle déjà, Louis-Marie ?
2010.
2010. 2010, qui a donc connu un grand succès en France, qui lui aussi a été primé. César du meilleur film, c'était donc en 2011 cette fois. César du meilleur acteur pour Michael Lonsdale, on l'a choisi entre autres pour ça, puisqu'on voulait rendre un hommage à cet homme décédé récemment. La critique... Télérama, Des hommes et des dieux touchera ceux qui croient au divin comme ceux qui ne jurent que par l'homme, un film splendide. Les cahiers du cinéma, le film va au-delà de son discours antiterroriste et c'est là toute sa force. Bien plus, il repose sur un paradoxe, il présente en surface une critique des actes terroristes tout en dressant le portrait de Kamikaze ou Le Monde. Les plans parlent d'eux-mêmes, chaque détail enrichissant le récit sans qu'il soit besoin de commentaires. C'est un grand et beau film. Alors l'histoire, faut-il le rappeler ? Paul, c'est donc l'histoire de ces 8 moines chrétiens, moines de Tibérine, qui ont été assassinés. Alors, on ne sait pas trop par qui au final, hein, y a toujours un mystère autour de ça. Si je vous laissais présenter l'histoire pour ceux qui, par hasard, ne la connaîtraient pas bien.
Eh bien, c'est suivre au jour le jour la vie de cette toute petite communauté de moines, qui a été une grande abbaye et puis qui a diminué progressivement, qui est dans une période historique très difficile pour l'Algérie, avec des bandes armées qui font régner la terreur. Et les moines se posent la question, est-ce que par amour et fidélité à la parole donnée, notre engagement de religieux au cœur d'un pays islamique et la fidélité aux villageois qui sont autour d'eux, est-ce que nous devons rester au péril de notre vie ou est-ce que nous devons partir parce que ben, y a plus grand-chose de possible ? Et la beauté et la grandeur de ce film, c'est à la fois un très grand respect de la vérité historique, même si on ne voit pas, ce sont des acteurs, ce ne sont pas des moines qu'on voit.
On voit pas
ça
n'a
pas été tourné
tués.
En Algérie, ça a été tourné au Maroc, parce que bon, tourner en Algérie après, ce n'était pas possible. Et ça ne s'intéresse pas du tout à la dimension... qui a tué, est-ce que c'est une bavure de l'armée et tout, c'est pas une enquête policière. On suit la vie et l'interrogation de ces moines au cœur de leur vie quotidienne toute simple. Et c'est la grande force du film. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de prêchi-prêchage, j'ose dire. Et on les voit au quotidien faire leur jardin, être en contact avec la population, s'interroger entre eux, prier. Alors, c'est la vie simple
et
des moines.
Et être ami avec cette population.
Et
on
être
a entendu des extraits,
en
là,
lien très très proche avec cette population qui dit « Mais si vous partez, qu'est-ce qu'on va devenir ?»
Louis-Marie.
Ouais, le film n'est pas un film qui a choisi de se focaliser sur ce qui s'est effectivement passé à Tibérine et ce qui a amené l'assassinat. De façon assez monstrueuse de ces sept moines. Ce qui intéresse Beauvois, il s'interroge en fait sur ce qu'est cette foi.
Vous dites sept parce qu'il y a un survivant hein, qui est d'ailleurs
oui,
est toujours
oui.
vivant et qui vit dans un autre monastère cistercien.
C'est ça, c'est les sept morts, hein, voilà. Parce qu'il y a effectivement, ils étaient huit.
Il y en a un qui s'est caché.
Voilà, qui s'est caché, on le voit d'ailleurs dans le film. Et donc, ce qui interroge Beauvois, c'est la foi qui a poussé ces hommes à s'engager dans une terre aussi reculée. pourquoi ils sont là ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là et qui sont restés là, qui ont fait face à l'adversité, à la menace d'une mort probable, et qui malgré tout sont restés là parce qu'ils ont une vie quand même, ils ont eu des familles, ils pouvaient revenir en arrière. C'est les débats, d'ailleurs, à un moment, les discussions sont assez vives à propos de rester et partir. Et c'est ce qui interroge Beauvois, c'est ça, c'est en quoi, en plus, ces hommes-là ont une position aussi importante dans cette communauté. Pourquoi, comme vous le disiez tout à l'heure, les habitants du village disent « mais vous ne pouvez pas nous abandonner, non ?» Ils pratiquent pas la même religion, mais ils sont indispensables.
Étonnamment, c'est aussi un film quelque part sur la paix. Hein. Peut-être qu'on pourra y revenir après avec des scènes comme une scène où les kamikazes, en tout cas un groupe islamique, rentre à l'occasion de Noël à l'intérieur du monastère. Je vous propose qu'on écoute un extrait. C'est un extrait fort connu. C'est Michael Lonsdale dans le rôle de Frère Luc. Frère Luc qui était donc un de ces moines, qui était le moine médecin du monastère. Michael Lonsdale qui a eu le prix donc, hein, du meilleur acteur dans un second rôle pour cette interprétation. Et là, c'est un dialogue dont on parlera après.
Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux ?
Et il y a quelque chose en vous qui s'émeut à la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat généralement. Et c'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc, faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un trouble, un grand trouble, surtout quand c'est la première fois. Mais dis-moi, ton père m'avait parlé de Khaled ?
Non, mais mon père, il parle trop. Non, moi, je veux pas. Bah, tu vois, ce que tu m'expliques, là, moi, Khaled, bah, ça me fait rien quand je le vois.
Oui, bon, alors c'est que c'est pas très sérieux.
Bah, c'est mon père qui veut moi.
Ah, là, c'est un autre problème.
Toi, t'as déjà été amoureux ?
Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Et voilà, j'ai répondu à cet amour-là.
Voilà, à propos de notre expert cinéphile, cette scène a quelque chose de particulier dont il faut parler, Louis-Marie Solaire.
Bah, la petite histoire veut que cette scène ait été improvisée. Et que Michael Lonsdale, c'est une jeune, toute jeune comédienne, mais c'était une comédienne malgré tout, hein, il faut pas. Il a une réplique. C'est Sabrina Ouazani qui joue le rôle de Rabia, cette toute jeune fille qui parle de l'amour. Et ils étaient là, tous les deux, à attendre. Parce qu'on attend beaucoup au cinéma quand on est acteur. Ceux qui ont beaucoup de boulot, c'est tous les personnels de plateau, les cadreurs, les électriciens, tout, quand on change les angles de prise de vue. Et pendant ce temps-là, ben, on attend. Et ils attendaient assis sur ces bancs de pierre là, qui entouraient le lieu où ils tournaient. Et ils ont échangé, comme il l'a dit. Et cet échange a fait cette scène, on peut dire, culte maintenant.
Oui. Et qui en dit long sur Michael Lonsdale, on peut le dire maintenant qu'il est décédé. Hein,
et c'est Michael Lonsdale qui a dit « Je tournerais bien une scène où on parle d'amour ». C'est lui qui l'a... C'était pas prévu au scénario, on le disait tout à l'heure. Et ça a été une prise et la première était la bonne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu à retoucher. Donc ça garde cette fraîcheur, cette spontanéité. Et ce qui est magnifique, c'est cette toute jeune fille, comme le disait Louis-Marie, qui s'adresse à ce vieux moine un peu en fin de vie, fatigué et tout, et qui lui parle de qu'est-ce que c'est qu'être amoureux. Et il dit, bah oui, c'est un ébranlement de tout l'être, et peut-être la joie aussi. Et quand elle lui dit, quand tu me parles comme ça, ben moi avec celui qui a choisi mon père, rien du tout. Et, oh, bah, c'est que c'est pas bien important.
Et quand je disais que ça parle de Michael Lonsdale, c'est que Michael Lonsdale, on le sait, était un acteur connu pour avoir une grande foi, donc peut-être ce grand amour dont il parle, il le connaissait de l'intérieur, et il a aussi dit dans ses mémoires, on en avait parlé je crois à l'occasion d'une autre émission, qu'il avait été très amoureux d'une femme, cet homme qui est resté célibataire toute sa vie. Donc il connaissait, on va dire, ses deux grands amours. On va écouter un autre extrait, c'est toujours Frère Luc qui va trouver son prieur, Christian de Chergé, qui est joué par Lambert Wilson. C'est un dialogue entre ces deux hommes, c'est une autre scène culte quelque part de ce film.
Je suis usé.
Mais Amédée t'aide un peu quand même.
Ah ben oui, heureusement. Je sais pas ce que je ferais sans lui. J'ai jamais eu autant de consultations. J'en suis à 150 par jour, tu te rends compte? Les gens viennent de tous les coins de la région. Alors j'ai affaire à des pathologies nouvelles, beaucoup d'hypertension, de gens stressés et certains en état de choc, sans parler des gosses qui, eux, subissent tout ça.
Les gens du village risquent de parler de ces hommes que nous soignons. Il faut faire attention.
Christian, pendant toute ma vie de médecin, j'ai eu affaire à toutes sortes de gens très différents, y compris des nazis. Et même le diable. Tu sais, j'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus. Je suis un homme libre. Laissez passer l'homme libre.
Allez, Paul, pour finir, pourquoi c'est un grand film?
Parce qu'il est très humain, donc très spirituel. Parce qu'il n'y a de spiritualité que l'humanité traversée par un souffle. Et là, c'est vécu en communauté, c'est prié. C'est très bien porté par les images, avec beaucoup de pudeur. Des fois, un côté baroque, comme la scène du repas final avec, de façon tout à fait surprenante, la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Et on voit ce vieux moine arriver avec deux bouteilles qui ont été apportées. Et puis, il mange en silence. Mais c'est très grave en même temps parce qu'ils sentent que la catastrophe s'approche. Et en buvant et en mangeant, ils se regardent. Et c'est un peu comme une eucharistie qu'ils vivent. Leur vie donnée par amour pour Dieu et pour le peuple au milieu duquel ils sont.
Voilà, très beau film aussi à revoir. Et ben, je rappelle le tiercé gagnant de ce jour, si je puis dire. C'est donc Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, et donc Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois. Et bien, bon visionnage, bon week-end, bonne semaine. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, vendredi prochain. Tant qu'on est confiné, on vous parlera ciné. Et ça rime. Merci beaucoup. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.